Salut tout le monde, c'est Alexis, on est le 15 décembre 2025, bon encore 2025 pour quelques jours, et j'ai un train à prendre à Nantes dans quelques minutes, enfin dans quelques, allez, dans 2 heures, voilà. À peine 1h30, allez voilà, donc comme ça, je me suis dit bon, ça, quand même je traîne, j'accumule des choses à commenter, donc bon, je fais un petit épisode, et puis on essaiera de compléter pendant la semaine. Je ferai aussi, je pense, la semaine prochaine, un petit épisode solo de récap, un truc un peu long, un peu sympa. Et puis, je ferai des récaps aussi avec mes différents amis, collègues avec qui je fais des séries. Lucien sur la série AI Game. Avec Xavier, ce sera peut-être plutôt début d'année prochaine sur le petit rétrospectif du vibe coding. Et puis, il y aura aussi avec Lilian, Not Only Code. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais. Voilà, ça bouge à fond. Moi, la semaine dernière, j'étais en vadrouille. J'ai passé 2 jours API Days. Enfin, je ne sais plus là, le nouveau nom, bref, de toutes les confs et tout. J'ai un peu débriefé. En plus, j'ai fait une conférence le deuxième jour, qui était assez cool, qui s'est bien passé. La salle était pleine, donc c'était chouette. Merci à Benoît qui nous a invités pour faire ça. Et puis le lendemain, j'étais à Normandie AI. À Rouen, et alors là franchement c'était vraiment une masterclass, super conférence. J'aurais bien aimé prendre le temps vraiment de bien débriefer de ça, mais peut-être que je reparlerai quand il y aura les replays, parce que tout n'était pas streamé en live, mais donc par contre tout était capté, et c'était vraiment une super conférence, franchement j'ai passé un super moment, donc voilà, je suis assez content de ma conf, pour être tout à fait honnête. C'est toujours ma déclinaison. Là c'était la version longue vraiment de ma conférence sur le vibe coding, en parlant un petit peu avec le parallèle avec le pop art, mais voilà, franchement je vais être honnête, là j'en suis assez satisfait parce que je l'ai fait plusieurs fois. La veille je l'avais fait en anglais, c'était dur, c'était pas très fluide, donc je suis arrivé vraiment au top de ma confiance à Rouen, donc voilà, donc c'était top. Bon ouais, mais j'en reparlerai, mais la conférence en elle-même était bien. J'adore ces conférences portées par des assos en région. Franchement, c'est les meilleures conférences en région ou à Paris aussi. Hein. Mais les conférences d'assos, c'est vraiment le top. Mais je reviendrai tout ça. J'ai envie de parler plus des conférences, de l'organisation de conférences, tout ça, parce que c'est un sujet hyper intéressant. Je pourrais faire tout un podcast, en fait, je crois, là-dessus. J'aimerais bien arriver à trouver un format, en fait, de podcast un peu autour de mes voyages, de mes déplacements pour les conférences et tout, mais je sais pas, pour l'instant, ça sera juste des notes vocales comme ça. Mais je pense qu'il y aurait un vrai format un peu sympa avec des petites interviews, avec un vrai montage et tout. Mais je sais pas vraiment faire ça, j'ai pas les moyens. Mais peut-être que l'année prochaine, j'aurai les moyens, on verra. Donc, de quoi je voulais vous parler? Franchement, il s'est passé tellement de choses là ces 2 dernières semaines. Bon, on a vu le comeback de Gemini 3 Pro qui est excellent, qui a été supplanté pour moi par Opus 4.5. qui est juste aujourd'hui pour moi le meilleur modèle, meilleur en code, mais meilleur aussi en écriture. Là, je l'ai testé pour faire des articles, des choses comme ça. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, il a parfaitement traduit toute ma pensée. Voilà, évidemment, toutes les idées sont de moi, mais sur la mise en forme, sur la réflexion, sur l'échange que j'ai avec lui de brainstorming, franchement, c'était excellent. Très bon en code. Donc voilà, pour moi, Opus, il n'y a rien à faire. Mais donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que Anthropic est un peu moins vu comme un gros concurrent à OpenAI, peut-être parce qu'ils ont moins de moyens, qu'ils sont là depuis un moment et qu'on les connaît, et qu'ils ont un ancrage très B2B, très grand professionnel, des usages professionnels, on ne peut pas faire d'image ou je ne sais quoi avec Anthropic. Donc là, vraiment le gros concurrent de OpenAI, c'est Google, qui a énormément de moyens, alors qu'on n'arrête pas de dire en ce moment que OpenAI, quand même, ils ne sont pas beaucoup. Ils ont des moyens, évidemment, mais ils crament aussi énormément d'argent. Donc c'est intéressant, c'est vraiment le game, là, se termine vraiment en fin d'année sur le champion, j'ai envie de dire, vraiment, des trois ans qui viennent de passer, qui est complètement chancelant, qui a déclenché un code red, un code rouge. Voilà, il y a eu un mémo interne de Sam Altman qui disait à ses collaborateurs que voilà, là, il fallait se préparer à des turbulences et qu'il fallait... vraiment, que ça allait être difficile, que Google faisait un énorme comeback. Donc, ils ont vraiment validé le danger de Google. Et ils ont raison, hein, parce que Google, c'est pas qu'une question technique. On se doute bien que Google a d'excellents chercheurs. Le truc, c'est les moyens. c'est la surface de distribution. Gemini devient accessible très vite et distribué très vite puisqu'il est disponible sur plein de téléphones, sur plein de, dans plein d'outils et tout. Donc c'est assez fou. Donc c'est franchement, c'est intéressant parce que moi, je ne suis pas un grand fan d'OpenAI, pour être tout à fait honnête. Alors, est-ce que je suis un fan de Google? Je ne sais pas. Malheureusement, j'aurais tendance à mettre un peu tous les GAFAM dans le même panier que du panier, le panier de crabe dont je me méfie et auquel j'ai envie de moins en moins de confier ma vie. Néanmoins, j'ai historiquement quand même un certain attrait pour Google, qui est peut-être le moins pire des GAFAM, avec Microsoft, qui est aussi, par certains aspects quand même, fait des choses assez correctes, notamment un petit peu sur l'open source, etc. D'ailleurs, ça m'amène à parler d'un sujet, parce qu'on ne va pas commenter le game en long en large, c'est pas, mais ça m'amène à un sujet intéressant, qui est celui donc vous avez probablement vu la news, elle a été très commentée un peu n'importe comment. Alors bon, j'avoue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a trois acteurs de l'IA qui sont Anthropic, OpenAI et Block, qui est un acteur un petit peu moins connu, mais qui est quand même un acteur important, qui ont soutenu, donc ces trois plus gros acteurs, qui ont soutenu la création d'une fondation sur l'agentique, sur l'IA agentique, enfin le Agentic AI, qui va être abritée, si j'ai bien compris, par la fondation Linux. C'est quelque chose qui existe aussi en France, hein, de faire une fondation sous, je ne sais plus comment ça s'appelle, abritée, je crois. Hein. Je me souviens, la fondation Simplon au début était sous l'égide de la Fondation de France, il me semble, des choses comme ça. Enfin, voilà, bref, bon, ça c'est un détail qui n'est pas très intéressant, mais là c'est quand même un signal intéressant. Donc la fondation, la Linux Foundation, évidemment, est une fondation extrêmement puissante, extrêmement importante, hein, pour le monde. On l'oublie beaucoup trop souvent, hein, que le monde moderne numérique est principalement fourni grâce à des ordinateurs qui sont sous Linux, hein, tous les serveurs de web, etc. Et la fondation Linux, c'est un certain nombre de projets, pas que Linux. Et donc, il y a maintenant ce projet autour de l'IA. Et donc, en fait, pour déclencher, enfin, un peu l'événement fondateur de la naissance de ce Agentic AI Foundation, c'est le fait que Anthropic a donné donc le protocole MCP, qui était déjà open source, enfin, hein, qui était... Ils avaient publié les spécifications, etc. Mais donc, il a été vraiment donné à cette fondation. Block a donné un framework qui s'appelle Goose, qui permet de créer des flottes d'agents, il me semble, quelque chose comme ça. J'avais vu passer, d'ailleurs, qui avait l'air assez intéressant, mais je n'ai vraiment eu le temps de tester. Et puis, OpenAI, ils ont donné agent.md, bon, qui est une techno, enfin, qui est une espèce un petit standard, c'est pas grand-chose, hein, par rapport au MCP, mais c'est un standard de fichier en Markdown qui pourrait marcher dans tous les agents IA, notamment les agents de code. Franchement, c'est pas grand-chose, mais il fallait qu'ils donnent quelque chose de ce que j'ai lu un petit peu entre les lignes. Donc voilà, et donc l'idée, c'est aussi qu'il y ait quand même sous... On le sait, les modèles sont principalement propriétaires, les modèles d'IA, mais si tout ce qui vient un petit peu autour peut avoir un petit peu de libre et un peu d'interopérabilité et un peu moins de fragmentation, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, quoi. Donc ça, c'est bien, c'est un move qui est bien. Je ne sais pas s'il faut lire beaucoup plus que ça. C'est les débuts, le MCP, de toute façon, c'était déjà de fait, c'était déjà un standard libre, il me semble. Là, c'est juste que ça va être comme ça a été donné. On a l'assurance que ça restera libre et tout, donc c'est bien. Mais bon, voilà, le reste, c'est quand même pas grand-chose non plus, quoi. Donc on verra où ça va, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on verra les prochaines news qu'il y aura là-dedans. Il y a eu aussi une autre petite news du côté de chez Anthropic. Ils ont acquis un outil open source qui s'appelle Bun. Je crois qu'on l'a commenté, je ne sais plus trop quand, peut-être, je crois avec Lucien peut-être, on a un petit peu parlé, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est probablement une acquisition d'équipe, hein, principalement, voilà, d'avoir des gens qui font du JavaScript à très haut niveau pour aller renforcer l'équipe de Cloud Code, puisque Cloud Code est un des leviers de croissance principaux, hein, évidemment, d'Anthropic. Cloud, les abonnements à Cloud, etc., sont probablement une source de revenus importante, mais il y a une explosion au niveau du code, que ce soit donc l'utilisation des API de code de Cloud ou leur solution à eux qui est Cloud Code. Donc voilà, ils se musclent là-dessus, donc c'est bien parce que Cloud Code, c'est déjà très très bien. Les modèles d'Anthropic sont très bons sur le code, donc tout ça ne va que dans un bon sens. Même si Anti-Gravity, Gemini 3 Pro, etc. C'est bien. Pour moi, Claude et Claude Code restent quand même un level au-dessus. En moyenne. Enfin, après, voilà. Dans ce game, c'est-à-dire que c'est une valeur sûre. Voilà. Après, d'une semaine à l'autre, bon, il y en a qui apparaissent, qui sont bien, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, ça devient difficile. La seule alternative qui est intéressante, c'est Cursor. Donc là, c'est une autre approche, une approche qui ne vient pas d'un éditeur, mais plutôt d'un outil. Et Cursor, ils ont sorti un truc très très intéressant, qui est un éditeur visuel. Alors, c'est le début. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai eu un petit peu des retours dessus. Mais en gros, c'est l'idée d'intégrer, alors j'allais dire d'intégrer Webflow, mais bon, on est très loin de ça, évidemment, mais d'intégrer vraiment une manière visuelle de modifier le front-end, hein, c'est pas tout. Mais si vous faites un site web, et bien maintenant, vous n'êtes plus, si vous voulez juste modifier un blog de 3 pixels, ajouter une bordure, un machin comme ça, vous n'êtes plus obligé de demander à l'IA. Vous avez une partie dans le Cursor qui vous permet d'afficher avec ce que l'on appelle de l'édition en place, donc votre site est par-dessus une couche d'abstraction visuelle qui vous permet de faire des modifications. Alors, c'est pas du drag and drop à la Wix, hein, c'est vraiment plus à la Webflow, à la WeWeb, à la même Silex, hein, enfin, voilà, ces outils qui permettent de prendre des éléments et manipuler les propriétés HTML, CSS. Donc c'est assez intéressant. Donc, toujours hein, cette dualité et cette hybridation qu'il y a d'un côté, et voilà, une petite dédicace à Alex de Silex, avec qui on a échangé quelques messages là aujourd'hui, et dont on continuera à discuter. Mais il y a donc cette hybridation, donc les outils no-code qui se mettent à l'IA par différentes manières, et puis les outils d'IA qui se mettent aussi à la programmation visuelle. Et donc c'est intéressant. Enfin, il y a plein de manières de faire différentes. Je ne sais pas quelle est la bonne. Moi, je suis principalement maintenant plutôt du côté conversationnel, agentique, etc. Mais ça m'intéresse de pouvoir modifier, parce que notamment pour des raisons d'efficience et de ressources. Hein. C'est-à-dire que demander à une IA de modifier un texte ou un padding de 5 pixels, c'est un gâchis de ressources. Et donc le faire de manière visuelle, je trouve que ça a beaucoup de sens. Mais moi, je pars de la conversation et voilà, après, je fais ça, donc ça m'intéresse de l'avoir dans des outils qui sont très bons plutôt en conversation. Quand les outils, par exemple WeWeb ou Silex, sont aussi bons sur la partie conversation, j'irai plutôt là-dedans parce que eux, d'un point de vue visuel, vont bien marcher. Après, il y a des sujets de quels sont les LLM qui sont utilisés, est-ce qu'on peut utiliser des LLM en locaux pour faire ça, le côté open source, enfin voilà, il y a plein de sujets à creuser, mais en tout cas, c'est toujours un move dans cette direction-là, notamment celle de l'hybridation. Et pour moi, l'hybridation, de toute façon, c'est le futur, hein, c'est-à-dire que le futur, c'est pas que du code généré par IA. Déjà, on le voit bien, de toute façon, la stack principale aujourd'hui, c'est un front généré par IA et un back avec un outil low-code type Supabase, où il y a plein d'alternatives, hein, ou Xano, mais et avec éventuellement un pilotage de la gestion du back par le modèle, donc là, qui propose sur du MCP, des choses comme ça, qui est un usage, là, pour le coup, que je trouve relativement intéressant du MCP, encore que Claude Code, par exemple, est tout à fait capable de piloter Supabase simplement en utilisant la CLI de Supabase, il n'y a pas besoin du MCP, et moi, personnellement, je n'utilise pas le MCP parce que ça surcharge aussi le contexte, etc. Donc, mais bon, bref, c'est perso. Mais moi, j'aime bien utiliser les CLI, et donc, mais j'aime bien l'idée de laisser, notamment parce que je suis pas un expert de Supabase, laisser le Claude Code ou un agent, enfin, le piloter le back-end. Mais en tout cas, on fait plus du code back-end, on fait des edge functions, on fait des procédures embarquées Postgre, on fait des choses comme ça. Donc, très ponctuelles, très ciblées, ça me paraît efficace, permet notamment d'essayer de gérer la sécurité. Et par contre, le front, lui, il est full dev. Et puis, pourquoi pas, avec des petites touches de programmation visuelle pour l'affiner. C'est ça le futur pour moi. Et pourquoi pas, pour les designers, plutôt utiliser du web, enfin, ou du Webflow, des outils plus puissants. Enfin, parce qu'on ne peut pas faire du pixel perfect en vibe coding, ça, c'est une évidence. Pour l'instant, Figma n'a pas trouvé aussi le truc qui permet de passer d'un design Figma à du code bien propre. Mais là, il y a un enjeu, c'est un enjeu moi qui me concerne pas trop, mais qui est intéressant. Mais en tout cas, voilà, on voit dans les différentes stacks, les différentes approches, que la vérité, elle est probablement dans des architectures comme ça un petit peu hybrides, qui sont pas forcément si complexes, parce qu'elles sont bien documentées, et parce que les outils aussi, bon, je donne toujours l'exemple de Lovable, hein, mais qui intègre Supabase vous propose cette approche un peu hybride sans que vous ayez vraiment à vous en soucier, à le savoir, quoi. Donc voilà, donc tout ça va évoluer, j'en parle beaucoup, c'est vraiment de loin ce que je suis le plus en ce moment, mais voilà, donc ça c'est un truc intéressant voilà, qui se passe chez Cursor. Et la dernière chose sur le côté vibe coding, c'est Mistral qui a proposé deux choses, un nouveau modèle de code qui s'appelle DevStral 2, qui apparemment est pas mal, mais pas au niveau des derniers... d'un opus 4.5 ou de ce que me disait Valérian, que je salue et qui est toujours un peu en avance sur ces choses-là. Il me disait on est plutôt dans l'équivalent d'un Haiku 4.5, donc le petit modèle d'Anthropic. Et à côté de ce modèle, ils ont une nouvelle CLI qui s'appelle Vibe CLI. Donc vous voyez aussi, hein, ils reprennent à fond le branding et tout du Vibe. Donc voilà, ça me fait penser un peu à l'époque où tout le monde mettait nos codes dans ça. C'est une époque qui paraît bien loin maintenant. Il y a eu une époque où il y avait du no-code un peu partout, et maintenant c'est le vibe qui vient un peu partout. Mais ouais, voilà, donc on va voir. Apparemment, c'est pas au niveau, et le problème c'est que Claude, pour moi, a trop d'avance, mais c'est important d'avoir une alternative française, d'avoir une alternative voilà, un peu plus... Je crois pas que DevStral soit open source ou open weight, mais en tout cas, voilà, c'est un bon signe qu'ils y soient, et on pourra suivre. Et s'il y a moyen de switcher, on le fera parce que ça serait quand même bien. Et puis après, ça dépend ce qu'on va faire, hein, probablement. Hein. C'est comme tout. J'ai fait un peu, j'ai travaillé, vous le savez, j'avais partagé un article où j'ai partagé un petit peu une catégorisation de ce que l'on peut faire en no-code. Mais en fait, après, il peut y avoir, enfin, en vibe code, il y a un autre article qu'il faut que je fasse, c'est ce qui est mieux à faire en no-code qu'en vibe code. Et puis, il y a un autre article qu'il faut que je fasse, c'est quels sont les outils, les modèles qui peuvent faire quelque chose. Par exemple, pour faire une landing page, est-ce qu'on a besoin d'utiliser Opus 4.5? Probablement pas. Par contre, c'est probable que c'est trop puissant pour faire juste une landing page, mais il faut être sûr que d'autres outils permettent de faire aussi bien. Donc voilà, donc il y a des choses, en fait, il y a plein de subtilités, il y a plein de grilles de lecture, de choses à travailler, mais c'est ce sur quoi je travaille vraiment à fond. Voilà, et j'espère avoir encore du temps l'année prochaine pour tester et essayer surtout de formaliser un peu ces choses-là. Un travail qu'on avait beaucoup fait à l'époque, hein, avec Contournement, d'essayer de formaliser, trouver des noms, des mots sur les notions de stack, les architectures, les choses comme ça. J'ai fait beaucoup pour le no-code, essayer de théoriser un petit peu le no-code. On a fait des livres et tout. Hein. Et voilà, maintenant j'ai envie de faire un petit peu ça avec le vibe coding, apporter un peu de réflexion. Parce que comme le no-code, il y a 5-6 ans, bah, il y a vraiment des gens qui racontent tout et n'importe quoi sur le vibe coding. Et je trouve qu'il y a... Moi, je trouve que c'est une belle opportunité. Tant qu'elle est responsable et pertinente. Voilà, c'est ce que je dis dans ma conférence, hein, d'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir vous la partager, de partager vraiment une fois pour toutes ma vision du vibe coding. Mais voilà, globalement. Allez, je m'arrête là parce que sinon je vais rater mon train. Je vous dis merci et à très bientôt.